Dans les temps de paix, l'Église se développe. Dans les temps de difficulté et de crise, l'Église continue de se développer. Et tout ça pour une raison toute simple, c'est parce que c'est Dieu qui est aux commandes et qui dirige tout, même face à l'opposition. De nouvelles églises sont implantées. Les églises grandissent, et j'allais dire font des petites églises, qui elles-mêmes grandissent et continuent de faire de petites églises qui grandissent, etc. Tout ça depuis 2000 ans. Un beau programme. Dieu dirige tout pour cela. L'Église, c'est quelque part un miracle. Des gens comme vous et moi, au sale caractère, je dis ça pour moi, pas forcément pour vous, qui arrivent à être ensemble, unis par un même lien, unis par l'Esprit pour un projet commun, celui d'adorer le Seigneur, de se former les uns avec les autres, de se soutenir les uns avec les autres, de grandir ensemble et de pouvoir vivre un beau projet. Dieu dirige tout, même face à l'opposition. Il peut nous arriver d'être persécutés, d'être attaqués, parfois même, pour certains chrétiens, d'être emprisonnés. Et c'est ce qui va se passer dans le texte que nous allons étudier ce matin, puisque, une nouvelle fois, on va s'en prendre à l'Église et cette fois-ci, on va essayer de taper directement sur la tête, de mettre de côté les responsables. Ceux qui étaient censés conduire le peuple de Dieu vont se retrouver dans une position très, très délicate. Parmi les 12, un va perdre la vie, l'autre va être emprisonné en vue d'être sacrifié aussi. Ça semble aller pour le plus mal. Alors je vous invite à suivre avec moi dans Actes chapitre 12, les versets 1 à 25. Acte 12 nous dit « À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit, qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Et soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit aussitôt d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Et elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « Oh, c'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné le Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un dieu et non d'un être humain !» Et alors, un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Un tyran, Hérode Agrippa, s'attaque à l'église de Jésus-Christ. Voilà ce que nous pouvons voir dans les 5 premiers versets. Alors le roi Hérode n'est pas forcément un personnage connu, parce qu'il y a pas loin de 4 hommes qui portent ce nom dans tout le Nouveau Testament. Ici, c'est Hérode Agrippa, premier, dont il est question, qui est le petit-fils d'Hérode le Grand, celui qui avait tenté de tuer le Seigneur Jésus, peu de temps après sa naissance. C'est lui qui était responsable du massacre des enfants. Et Hérode Agrippa est le petit-fils d'Aristobule, qui a été exécuté en 7 avant Jésus-Christ. Il a été élevé à Rome, non loin de la famille impériale. De 23 à 36, il alla en Galilée auprès de son oncle Hérode Antipas, celui qui avait vu Jésus-Christ et qui était responsable de l'exécution de Jean-Baptiste. Et Agrippa s'est bien évidemment querellé avec son oncle. Il a quitté la Palestine pour Rome. À Rome, il a été emprisonné par Tibère, l'empereur de l'époque. Mais à la mort de Tibère, quand le nouvel empereur règne, Caligula, Hérode reçoit le titre de roi et on lui donne la gestion des terres situées au nord-est du lac de Tibériade. En 41, un nouvel empereur, Claude, est nommé après la mort de Caligula et attribue un royaume encore plus important qui inclut la Judée et la Samarie. Et donc finalement, Hérode Agrippa se retrouve avec des terres qui correspondent quasiment à l'équivalent de celles de son grand-père, Hérode le Grand. Il règne donc sur toute la Palestine, la Judée, la Samarie. Il a des territoires qui sont énormes, où se trouve bien évidemment le temple de Jérusalem, quelques synagogues aussi, et évidemment des églises chrétiennes. Et voilà que Luc nous informe dans ce livre des Actes qu'Hérode va démarrer une nouvelle vague de persécution. Un moment qui paraît difficile, Jacques, le frère de Jean, l'un des fils de Zébédée, est tué, probablement par décapitation. Pierre est emprisonné. Deux événements dramatiques pour stopper la croissance de l'Église. Deux événements qui pourraient mettre un coup d'arrêt à l'expansion de l'Évangile. Mais dans la persécution, dans les temps difficiles, Dieu reste aux commandes. Hérode Agrippa, ce pourquoi il est connu, c'est aussi pour son souci de préserver la paix avec Rome. Il a eu beaucoup de bénéfices, un royaume qui s'est agrandi. Et pour lui, afin de maintenir la paix romaine, il va falloir supprimer tous ceux qui peuvent s'opposer de près ou de loin à l'empereur. Et comme nous en sommes au début du culte de l'empereur, vous imaginez bien que les chrétiens étaient de bons candidats à la suppression pure et simple. Agrippa tolérait même la présence de statues de l'empereur dans l'enceinte des synagogues. Pour autant, il va convaincre l'empereur de ne pas ériger de statues dans le temple de Dieu, parce qu'il cherche à gagner la confiance des Juifs. Il fait tuer Jacques, comme on l'a dit. Pierre est emprisonné. Il veut le faire comparaître en jugement. Mais comme on est juste avant la Pâque, il veut attendre que la Pâque soit passée. Pour l'Église, imaginez l'inquiétude, imaginer les difficultés. On peut se demander, mais que vont-ils faire? Privés de deux de leurs responsables influents, qu'est-ce qu'il leur reste? La prière. Et c'est ce qu'ils font. Ils s'adressent à Dieu par la prière, avec beaucoup de confiance. Pierre est en prison, l'exécution ne semble faire aucun doute, tout semble bien aller de mal en pis, mais les croyants ne se laissent pas intimider. Ils intercèdent. Et une nouvelle fois, Dieu va répondre. Et nous le voyons à partir du verset 6 et jusqu'à la première partie du verset 19, qu'Hérode Agrippa va être vaincu par Dieu. N'oublions pas que Pierre a déjà été emprisonné à deux reprises lorsqu'il était accusé devant le Sanhédrin. Après avoir été relâché, il a rejoint l'Église qui priait pour eux. L'Église ne sait pas si une troisième libération est possible, mais elle sait que Dieu a les moyens de le faire. Elle sait que Dieu peut intervenir. Face à deux groupes humains aux attentes différentes, les attentes du monde avec celles d'Hérode, le pouvoir de l'épée et la sécurité de la prison, l'Église n'a qu'une seule arme, celle de la prière et de la confiance en la souveraineté de Dieu. Et l'Église prie avec ferveur pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Juste avant la comparution, nous le voyons dans le texte, Pierre est sous bonne garde. Deux soldats à ses côtés dans la cellule, deux autres qui montent la garde devant la porte de la cellule. À moins d'un miracle, on ne s'en sort pas. C'est totalement impossible. Et même si Pierre avait entendu qu'il finirait probablement martyr de la bouche même de Jésus-Christ, ce que nous rappelle l'évangile de Jean à la fin, au chapitre 21, Pierre, emprisonné, sait qu'il peut être condamné. Pour autant, il n'est pas rongé par l'angoisse parce qu'il dort paisiblement. Il est dans le calme, il est dans la confiance en Dieu. Et soudain, voici qu'un ange apparaît. La cellule est illuminée, Pierre se fait réveiller. Les chaînes tombent. L'ange demande à Pierre de mettre ceinture et sandales, son manteau, de le suivre. Pierre ne sait même pas si c'est réel ou s'il n'est pas en train de rêver. Conduit par l'ange du Seigneur, il passe la première garde, puis la deuxième, se retrouve dans la porte d'entrée de la prison et peut sortir à l'air libre pour rejoindre l'Église qui prie pour sa délivrance. En réfléchissant, il choisit de rejoindre le lieu où il a le plus de chances de trouver les principaux croyants réunis. Quand il a compris ce qui s'est passé, il se rend donc à la maison de Marie et de Jean-Marc. Jean-Marc est un personnage que nous reverrons un peu plus tard, qui sera l'auteur du deuxième évangile par la suite. Le lieu de retrouvailles est un lieu où les disciples sont réunis, sans doute parce qu'il y avait de larges possibilités d'accueil. Et lorsque Pierre frappe à la porte, on doute même que ce soit lui. Certains imaginent peut-être qu'il s'agisse d'espions qui seraient venus encore persécuter l'Église, ce qui n'est pas le cas de la servante qui a bien reconnu la voix de Pierre et qui veut ouvrir, mais les autres disciples la dissuadent. Puis ils se mettent à croire que ça pourrait être un ange qui vient leur parler et pour autant ils n'ouvrent pas. Et Pierre insiste, frappe à la porte. Alors cet épisode a quelque chose de surprenant. Imaginez-vous, on est en train de prier pour quelque chose et puis la prière est exaucée et on a de la peine à croire que ce pourquoi on a prié puisse se réaliser. C'est quand même assez comique comme situation. Pierre insiste, il finit par entrer, il leur demande de raconter tout ce qui s'est passé à Jacques, le frère du Seigneur, et aux autres frères, et puis il quitte cette maison pour se rendre ailleurs. Le texte ne nous dit pas où, mais on peut imaginer aisément qu'il a quitté Jérusalem et qui s'en est allé ailleurs. L'Épître aux Galates nous dira par la suite qu'il va être présent un temps à l'église d'Antioche et même qu'il reviendra à Jérusalem par la suite. Mais c'est quand même un événement marquant dont nous sommes témoins. Si un des disciples est mort sous les coups de l'épée, un autre est libéré parce que Dieu a encore besoin de lui. Et Pierre continuera d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, même si le texte des Actes nous en parlera beaucoup moins par la suite. Hérode, qui voulait se débarrasser de Pierre, est maintenant confronté à l'impuissance des soldats. On ne sait pas où il est passé. Or, à cause des lois romaines, ils devaient garder un prisonnier, ils ont failli à leur tâche, eh bien c'est eux qui vont mourir. Et c'est ce qui se passe. Hérode n'est pas forcément un tendre et n'est pas quelqu'un qui est prêt à faire grâce. Il n'a pas pu détruire l'église et l'un de ses piliers alors qu'il l'avait sous la main. Le tyran, quelque part, est vaincu. Et voilà maintenant le troisième élément dont nous parle ce texte, la mort du persécuteur et l'Église continue sa croissance. Le récit de Luc se termine donc par la mort du tyran. De Jérusalem, il s'est rendu à Césarée, capitale de la province, il y reste pour un peu de temps. Il y avait là des conflits avec les habitants de Tyr et de Sidon qui ont donné lieu à une nouvelle tentative de conciliation parce que les habitants de Tyr et de Sidon, pour pouvoir être ravitaillés, avaient besoin de faire allégeance à Hérode. On peut imaginer que Blastus, dont il est question dans le texte, a joué un rôle pour régler ce conflit. Quoi qu'il en soit, en offrant des céréales à ceux qui s'opposent à lui et qui sont maintenant sous sa coupe, Hérode gagne encore plus en influence. Il est donc aisé pour lui de se satisfaire encore davantage de la solution et de voir combien il est un homme important. Il savoure sa victoire. On imagine qu'il n'hésite même pas à se vanter de sa toute-puissance, au point même que les spectateurs de la scène en viennent à le considérer comme un dieu qui ne fait que flatter son orgueil, qui était sans doute déjà très important. Il est intéressant de voir que non seulement Luc nous décrit la mort d'Hérode dans des circonstances qui sont pénibles, mais dans les antiquités juives, Flavius Joseph, l'historien juif de l'époque, décrit la mort d'Agrippa dans des circonstances similaires. Hérode était présent à Césarée au moment de sa mort. Il meurt à 45 ans. Et celui qui se vantait de son pouvoir, drapé dans ses habits royaux, est bouffé de l'intérieur, si vous me permettez l'expression. Ça a dû être particulièrement pénible comme mort. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les deux auteurs, que ce soit Luc ou Joseph, insistent sur le fait que la cause de la mort, c'est l'orgueil. Avoir voulu se mettre en avant, avoir voulu insister sur son importance, sur son pouvoir, etc. En tout cas, ce qui est certain, Luc disait qu'il était rongé de l'intérieur, Joseph parlait d'une maladie sévère qui l'a frappé de façon brutale, mais le tyran a dû souffrir avant de mourir. Le jugement de Dieu est donc là. Celui qui persécutait l'Église, qui a tenté de la faire disparaître, est aussi puni à cause de son orgueil. Et que nous disent la fin du texte, les versets 24 et 25 ? Que l'Église et la parole continuent de progresser. Saul et Barnabas se rendent à Antioche, vont continuer d'équiper cette église avant de démarrer leur travail missionnaire. La focale que nous avions jusqu'à présent dans le livre des Actes était sur Jérusalem. Maintenant, elle va partir sur une nouvelle église, Antioche, lieu de développement d'un élan missionnaire extraordinaire, qui vont conduire les pas de l'apôtre Paul, d'abord en Galatie, à Chypre, après en Europe, en Grèce, en Achaïe ou en Macédoine, comme on disait à l'époque, et puis au final, jusqu'à Rome. Antioche de Syrie va être effectivement cette église qui va être le centre névralgique de la mission chrétienne. Une première étape est franchie, l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà tout ce que nous dit le texte et que finalement, ce qui doit nous encourager, c'est que même dans les temps d'épreuve, de difficultés, de douleurs, Dieu reste aux commandes et a le dernier mot. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Finalement, l'Église de Jésus-Christ continue de se développer. Dieu dirige tout face à l'opposition. Deux applications que je voudrais souligner. La première, elle est toute simple. Croyons que Dieu répond aux prières. Comme je vous l'ai dit, ça m'a moi-même surpris de voir l'attitude de ses disciples qui priaient avec ferveur, comme nous dit le texte. Et quand la réponse à la prière arrive, sous leurs yeux, ils ne la voient pas. Alors, est-ce que nous n'avons pas tendance à faire un peu pareil ? Moi, sans doute. Vous, je ne sais pas. Mais je sais que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous choisissons de lui faire confiance pour tout ce qui concerne nos vies. On le dit, on le prie, on l'exprime. Et pourtant, quand la réponse à la prière ne vient pas de façon immédiate, je suis le premier à en douter. À imaginer même que Dieu n'a pas répondu, ou à ne pas voir comment il a répondu. Alors en disant cela, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes de mauvais chrétiens qui ne croient pas aux prières. Hein. Loin de moi cette pensée. Je suis en train de nous dire que quand nous prions, même si dans nos têtes nous croyons que Dieu peut agir, nous avons parfois du mal à voir que c'est vrai qu'il l'a fait. Et parfois en regardant en arrière, ça peut nous faire du bien de nous dire mais finalement, c'est extraordinaire de voir comment Dieu répond à nos prières. Et c'est beaucoup plus ça, ce à quoi je voudrais nous encourager, vous encourager. Même si vous ne voyez pas comment Dieu répond, il répond. Il n'y a pas de doute à avoir. Et finalement, les disciples et nous aussi, nous avons à croire que Dieu est souverain, qu'il veille sur toutes choses et qu'il répond aux prières. Deuxième application, faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Alors ça, les amis, facile à dire, hein. Beaucoup plus difficile à faire. Quand on voit des choses qui nous semblent difficiles, injustes, qui nous font mal, quand on voit des choses où finalement on ne comprend pas même que Dieu tolère cela, quand on traverse des difficultés, des tempêtes, quand on est au creux des vagues, est-ce que vous arrivez encore à faire confiance à Dieu ? J'avoue que moi j'ai parfois du mal. Et pour autant, la parole est claire. Chers amis, ne perdons jamais espoir. Il y a toujours une sortie des difficultés. Quand on est parfois bloqué dans un tunnel, rappelons-nous qu'il y a toujours une lumière au bout. C'est quelque chose qui va nous encourager. C'est quelque chose qui peut nous aider. Savoir que Dieu dirige tout, même face à l'opposition. Mais quel baume extraordinaire pour moi de me le rappeler et de m'accrocher à cette certitude. Dieu a le dernier mot. L'Église de Jésus-Christ est appelée à se développer, à grandir. Pour peu que nous nous impliquions, les uns et les autres, dans ce à quoi Dieu nous demande de nous impliquer. Alors pour conclure, si on a l'impression que le chapitre 12 commençait très mal, avec la mort de Jacques, l'emprisonnement, la condamnation probable de Pierre, il se termine par une note extrêmement positive. La victoire de Dieu et son triomphe. Pierre est libéré, l'Église de Jésus-Christ continue à se développer et à grandir. Alors, chers amis, gardons dans nos cœurs que même dans les tempêtes, les difficultés, c'est Dieu qui reste aux commandes, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. La puissance de Dieu peut stopper les projets des pires persécuteurs et sa gloire se révéler au sein de son Église pour le bien de son peuple. Même dans les moments difficiles, tout reste sous le contrôle du Dieu qui veille et qui a prévu de grandes choses pour chacun de nous. Alors rappelons-nous cette importance de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Les deux applications pratiques que nous avons vues nous invitent à nous tourner vers Dieu, à nous attendre à lui. Quand nous prions, attendons-nous à une réponse claire de Dieu, même si on ne la voit pas de suite. Et puis sachons lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Même dans les moments difficiles, Dieu reste aux commandes. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui a été donné pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voilà le message qui est au cœur de la vie de l'Église. Cette bonne nouvelle que nous sommes invités à partager autour de nous. Cette bonne nouvelle que nous sommes invités à vivre en nous formant les uns avec les autres, en apprenant à grandir dans l'Église, les uns avec les autres. Et pour ça, Dieu a besoin de transformer nos caractères. Et c'est toujours un défi. En apprenant à nous soutenir les uns avec les autres. Voilà la réalité de l'Église. Le peuple de Dieu conduite par Jésus-Christ et par son Esprit. Si nous nous réunissons dimanche après dimanche, c'est à cause de l'œuvre de la croix, parce que Jésus est mort pour toi, pour moi, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ce ministère de la réconciliation, on est invité à le diffuser autour de nous, à rappeler que nous pouvons être en paix avec Dieu à cause de ce qui a été fait par Christ. Et nous sommes invités à grandir les uns avec les autres. Et ce n'est pas toujours facile. Ça peut passer par des doutes, des remises en question. Mais dans les moments de doute, gardons à cœur que c'est Dieu qui est toujours aux commandes et qui a le dernier mot. Amen.